La grande équation.
Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, quel avenir pour la recherche? Bien qu'elle existe depuis près de 1000 ans, l'université n'a jamais cessé d'évoluer et de s'adapter à la société dans laquelle elle existe. Au Québec, cette institution a connu de nombreux bouleversements. Et un des plus importants est sans contredit celui qui s'est produit dans les années 1960, alors même que les universités québécoises francophones sont entrées dans la modernité en diversifiant leurs domaines d'intérêt, en créant de vrais programmes de recherche et aussi en favorisant une formation au cycle supérieur. Depuis, l'université québécoise a continué de suivre les grands mouvements mondiaux dans lesquels elle est insérée. Pas toujours à la même vitesse, évidemment, ni avec la même intensité, mais la transformation se poursuit. Une transformation qui n'est pas toujours dans le bon sens, à tout le moins, selon notre invité d'aujourd'hui, Gaétan Lafrance, qui est professeur honoraire à l'INRS Énergie, Matériaux et Télécommunications, et dont la carrière a commencé avec, justement, les grands bouleversements de la Révolution tranquille. Outre ses travaux sur l'énergie, Gaétan Lafrance a aussi publié deux livres grand public, « Vivre après le pétrole, Mission impossible », publié en 2007, et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, « Quel avenir pour la recherche », un livre publié en 2009, également aux éditions Multimonde. Gaétan Lafrance, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Vous avez commencé votre carrière au début des années 70 comme professionnel de recherche côté informatique à Varennes. Pouvez-vous nous resituer un peu dans cette période?
Bon, il faut savoir que tous les grands bouleversements, suite à la Révolution tranquille, la création de grands centres de recherche, la création de l'Université du Québec, la création de l'INRS, qui est une constituante de l'Université du Québec, tout ça s'est fait donc suite aux volontés de donner aux francophones des centres de recherche pour former des gens, pour les préparer donc à des activités professionnelles de haut niveau. Donc, vous savez, la recherche, c'est un petit peu le quatrième niveau de formation, si on prend le primaire, secondaire, après ça, le cégep qui a été créé par la Révolution tranquille, le bac, puis après ça, la recherche, c'est un peu le quatrième niveau de formation. Donc, dans une société très avancée, il faut qu'on ait quelque part des plateformes où les gens peuvent aller au bout, aux limites quoi, de la connaissance. Et donc, c'est à ce moment-là donc qu'on a créé l'IREC, l'INRS et ainsi de suite. Et moi, j'ai eu la chance, donc, en sortant de l'université, d'être engagé par l'INRS Énergie à l'époque. Et il faut savoir, donc, on était très ambitieux aussi, parce que c'est le programme Fusion, donc, qui a parti à ce moment-là, Fusion Canada. Et moi, j'ai été invité, donc j'ai été engagé à cause de ma formation en mathématiques et en physique pour résoudre des équations différentielles. Donc, mon cheminement a progressé beaucoup depuis, mais c'est...
Et vous aviez à ce moment-là une maîtrise...
J'avais un bac en physique, un bac en maths. Et par la suite, donc, j'ai poursuivi mes études à l'École polytechnique pour faire un doctorat, donc en maths appliquées pour
être honnête. Déjà une fois à l'INRS.
Oui, une fois à l'INRS, j'ai été libéré pour faire des études. Quoi.
Et à ce moment-là, la science avait le vent dans les voiles. En 1969, c'était le premier pas de l'homme sur la Lune.
et le programme spatial, et donc on croyait à ce moment-là énormément aux possibilités de la science.
Oui, le grand avantage de l'époque, c'est qu'on était audacieux, on avait des grandes équipes de recherche autour de grands thèmes, donc la fusion nucléaire, c'est quelque chose de très important, c'est un des projets de Big Science que le Québec a connu.
Et c'était de se mettre à ce moment-là au niveau des plus grands projets de recherche
ouais,
à travers
à fait,
le monde.
Tout ici. À fait. Donc, l'IREC avec M. Boulay ou la création de l'IRES Énergie avec Brian Gregory qui avait fait un doctorat à Cambridge. On n'avait pas peur de dire, même si on débute dans ces domaines-là, on est capable de compétitionner à l'échelle mondiale. Et c'était des projets internationaux dans le sens où on collaborait avec les grands du monde dans le domaine-là.
Et ici, on a mentionné plusieurs acronymes, peut-être avec lesquels tout le monde n'est pas familier. Donc, l'IREC, qui est le Centre de recherche d'Hydro-Québec,
oui.
qui venait d'être fondé aussi à la fin des années 60. Et on avait, du côté universitaire, l'Institut national de recherche scientifique, qui était un institut qui se démarquait des autres programmes de recherche universitaires qu'on avait, par exemple, à l'Université de McGill ou à l'Université de Montréal à ce moment-là.
Tout à fait. Donc, c'est une nouvelle formule qui a été copiée beaucoup par la suite. Dans les universités en créant des centres où les profs étaient dégagés d'enseignement. Mais il faut savoir que nous, notre vocation, c'était donc d'avoir de la recherche fondamentale et appliquée axée sur une approche problème. Au début, c'était beaucoup comme ça. On ne formait que des étudiants gradués, donc maîtrise et doctorat.
Il n'y avait pas d'étudiants de premier cycle, pas de
pas
cours,
d'étudiants
ou peu de
cours à donner. Donc, c'est ça. Donc, les profs étaient dégagés d'enseignement, ils donnaient des cours. Mais c'est encore comme ça, on ne donne des cours qu'au niveau gradué. Et voilà donc une formule nouvelle au Québec qui ressemblait un petit peu au CNRS en France, où il y a des profs qui sont assignés exclusivement à la recherche, qui donnent peu d'enseignement. Bon, l'avantage de notre centre de l'INRS, la particularité, c'est qu'on était mi 50% universitaire, 50% centre de recherche, entre guillemets. Donc, on était associé à des centres de recherche privés ou parapublic. Donc, nous, on était associés avec l'IREC. Il y avait le centre Télécom qui était associé avec Bell Norton, ainsi de suite. Donc,
on se préoccupait déjà à ce moment-là de la transmission du savoir, de la recherche fondamentale à l'appliquer.
Tout à
fait. C'est pas un problème qu'on se pose aujourd'hui.
Ouais. Donc, disons que les conditions ont changé et la formule INRS a montré que l'évolution de l'INRS, en fait, a montré que c'est pas facile d'avoir ensemble une approche industrielle puis une approche universitaire.
On reviendra sur cette situation. Parce que ce que je voudrais, c'est mettre un peu le portrait de la recherche déjà en 1970, quand vous commencez. Tout est à faire au Québec, ou presque, ce qui donne donc beaucoup de possibilités à l'imagination, à l'audace et au risque.
Oui. Il faut savoir aussi que, comme dans les années 50 et 60, la formule INRS, et dans les universités aussi, c'est des formules par équipe, dans le sens où les équipes sont bien équilibrées. Il y a des profs, il y a des assistants, il y a des techniciens, il y a, dans le cas de l'INRS, pour le projet Fusion notamment, beaucoup de collaborateurs externes de haut niveau. Alors qu'on va y revenir probablement au cours de l'émission, mais cette formule-là aussi a changé beaucoup dans le temps. La recherche universitaire, c'est beaucoup plus axé sur le couple prof-étudiant qu'il y a 40 ans, là, quoi.
Guettant la France, vous êtes professeur honoraire à l'INRS Énergie, Matériaux et Télécommunications et vous avez écrit un livre « Quel avenir pour la recherche » publié aux éditions Multimonde. Des trois périodes que vous avez identifiées dans votre livre, j'aimerais ça qu'on revienne sur chacune d'entre elles. On a brièvement mentionné la période de création du système qui s'étend de quelle période à peu près?
Moi, je dirais que la période de 1970, donc il s'agit d'une toute nouvelle université, hein. Les universités du Québec, telles qu'on les connaît, c'est une création d'une génération, en gros, c'est notre génération à nous. Et donc, ça n'a rien à voir avec les universités de 1950 et 60 ici au Québec. Donc, on a créé une nouvelle structure.
En 1970.
En 1970, surtout avec le Q. Moi, j'associe ça un petit peu à un Big Bang, dans le sens où, de 1970 à 1990 environ, je dirais, on a créé toutes sortes de départements. Donc, pour justifier des nouveaux fonds, souvent, on créait un département. Et donc, et selon les modes aussi, ça a changé. Donc, dans les années 70, c'était beaucoup la science et génie telle qu'on les connaît d'une façon classique. Mais à partir de 1980, donc, il y a tout le phénomène de la science de gestion. Donc, beaucoup, beaucoup de nouvelles facultés de sciences de gestion est apparu ensuite avec le rapport Brundtland, le développement durable, donc beaucoup de développement de départements d'environnement qui sont encore très d'actualité, beaucoup de départements de sciences sociales. Vous savez, par exemple, sciences politiques a 50% plus de professeurs que dans les départements de physique. Donc, ça montre un petit peu que l'évolution des universités a
un
changé.
Un déplacement vers les c'est qu'on a créé,
c'est un peu ça le Big Bang, dans le sens où on crée de plus en plus de départements qui s'appelle science aussi, hein, science politique, science administration, science atmosphère, ainsi de suite, mais qui sont pas les sciences qu'on connaissait dans les années 50 et 60. Donc, c'est un peu ça. Donc, évolution de l'université en faveur de plusieurs autres disciplines, donc 500 disciplines en gros dans les universités. Alors que dans les années 50, l'époque où Hubert Reeves a fait ses classes, il y avait la science, ça se résumait à peu de choses, dans le fond, à peu de disciplines. Donc, vous voyez un petit peu une grande évolution. Donc, première période, création beaucoup de départements.
Qui fixe aussi un peu, parce que pendant cette période-là, on a la possibilité d'aménager, de créer, mais à un moment donné, on se retrouve avec une structure qui est lourde, qui est déjà relativement rigide, par le fait qu'on a tous ces acteurs-là qui ont des intérêts et qui amènent un petit peu l'université dans un mode plus...
Les années 90, la décennie 90, c'est la période des coupures, hein, que ce soit au provincial ou au fédéral. On a voulu rationaliser les dépenses publiques. Donc, évidemment, l'université a écopé à cette époque-là. Et donc, c'est une décennie où les universités devaient revoir leur fonctionnement. Donc, beaucoup d'universités avaient des problèmes financiers sérieux. C'est pas d'hier, les crises dans les universités. Là, on se dit en crise depuis 40 ans. On pourrait y revenir aussi. Donc, c'est une période où il y a eu beaucoup, beaucoup de... Parce qu'on ne créait plus de nouveaux départements. Il n'y avait plus de fonds pour créer de nouvelles choses.
Et pour embaucher, donc on arrête d'embaucher.
Il y a eu une baisse des nombres de profs sérieuses à un moment donné. Donc, on est passé de mémoire, je pense, de 9 000 à 8 000 profs dans les universités. Et donc, il a fallu restructurer un peu le fonctionnement de l'université. Donc, je ne sais pas si on peut passer à la troisième période.
Oui, pour montrer un petit peu.
Troisième période, c'est pas juste c'est la décennie 2000. Donc, la décennie 2000... D'abord, le financement de la recherche a augmenté, a repris, surtout de la part du fédéral.
Avec la mise en place des programmes de Charles, de la FCI,
tout à fait,
Fondation
les
canadienne
FCI,
pour l'innovation.
Bon, c'est ça. Et ça aussi, avec aussi beaucoup de financement pour le béton. Donc, parce qu'avec les FCI, avec les nouveaux centres de recherche, il faut aussi avoir des nouveaux locaux. Donc, dans les années 2000, par rapport aux années 70... Tous les nouveaux locaux, c'est pour la recherche principalement et non pas pour laisser donner une place supplémentaire aux étudiants du bac. Aussi, un nouveau changement d'orientation, c'est qu'au lieu d'axer l'université sur la formation au bac, c'est de plus en plus une formation d'étudiants gradués. C'est payant d'avoir des étudiants gradués dans les universités.
À cause du système de financement
actuel. À cause du système de financement. D'abord, c'est qu'on va chercher des fonds de recherche. À cause des EETP, donc les équivalents étudiants à temps plein, on va chercher plus de sous avec un étudiant en maîtrise ou au doctorat qu'avec un étudiant au bac. Et comme il y a une saturation des étudiants au bac, on le voit avec les centres satellites, hein, c'est une compétition inter-université.
Les centres comme l'Université de Sherbrooke à Longueuil.
Ouais, ben, tout le monde a des satellites un peu partout. Donc, les universités, volontairement, se sont tournées vers la recherche parce qu'ils se cherchaient des nouvelles vocations pour progresser.
Pour avoir augmenter leurs revenus puis se développer.
Bon, c'est ça. Donc, la décennie 2000, c'est beaucoup, beaucoup de nouveaux axes. L'université, ce n'est plus seulement une... Puis toutes les facultés en plus, que ce soit la faculté de droit, la faculté de sciences religieuses, la faculté de sciences politiques, on se tourne vers la recherche. Est-ce que c'est de la science? On pourra en parler, mais on se tourne vers la recherche. Désormais, un prof qui veut avoir une promotion doit faire la recherche, doit avoir des étudiants gradués sous sa direction, quelle que soit la faculté. Donc ça, c'est nouveau par rapport aux années 70. En droit, il n'y avait pas de... On formait pas des étudiants en doctorat en droit dans les années 70, alors que c'est la faculté où j'ai vu une très forte croissance de formation en droit. Donc ça montre encore une fois que... Et ça arrange tout le monde. À la fois les profs qui ont une promotion, à la fois les universités qui reçoivent plus d'argent, et ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est bien ou pas? On pourra en parler, mais c'est clair que... L'université d'aujourd'hui, ce n'est pas celle des années 70.
Ce n'est pas celle des années 70 et c'est aussi une université qui continue à être transformée avec le gouvernement conservateur depuis quelques années. On observe aussi un nouveau changement vers, par exemple, des problèmes plus appliqués et des problèmes beaucoup plus ciblés.
Ça, pour revenir, moi, j'ai pas la même perception de la... Parce que dans les recommandations, il faut voir que la recherche, c'est différent. On peut faire des recommandations pour l'université et des recommandations pour le secteur autre, la recherche autre qu'universitaire. Il faut savoir que au Canada, donc, la recherche est fortement axée sur les universités par rapport aux autres pays du monde. Donc, on est le premier au monde pour le financement de la recherche supérieure ici au Canada et au Québec aussi. Donc, et si on prend l'exemple des conservateurs de M. Harper, le financement universitaire n'a pas baissé. Le CRSNG, tout ça. Donc, il y a eu des orientations qui ont été données, mais pour l'essentiel, ça reste à peu près la même chose. Par contre, ce qu'on observe, c'est que depuis que M. Harper est là, c'est que les dépenses par rapport au PIB en recherche on recontinue à baisser. Donc, on était déjà un cancre depuis toujours, là, ce côté-là, par rapport au G7, par rapport aux pays avancés dans le monde. Mais ça continue. Donc, de moins en moins, la recherche et l'innovation sont considérées au Canada, quoi.
Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Gaétan Lafrance qui nous parle un peu de l'avenir de la recherche et de l'évolution de la recherche au Canada. On est un cancre au Canada pour la recherche. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer ce que vous voulez dire ici?
C'est depuis à peu près toujours. Vous savez, les grands pays du monde, là, le Japon, la Corée, les États-Unis, un petit peu moins, mais avec Obama, ils veulent rattraper ce qu'ils faisaient dans le passé, la Suède. Les dépenses par rapport au PIB en recherche, c'est de l'ordre de 3,5%.
Ça, ici, on parle des dépenses totales, c'est-à-dire à la fois les dépenses gouvernementales qui vont dans les universités, les centres de recherche, et les dépenses industrielles, par le secteur privé.
Tout à fait. Donc ça, c'est les grands pays du monde. Au Canada, on a toujours été en bas de 2 %. Donc, vous voyez, 2 % par rapport à l'OCDE, c'est 2,7 environ. Donc, on montre un petit peu là, que le Canada, on est en bas du 2 %. Et ça date de très longtemps. Donc, avec les coupures des années 70, des années 90, notamment avec M. Chrétien, qui a coupé tous les grands... axes, des grands projets de recherche de Big Science, comme la fusion Canada, par exemple. Et avec M. Harper, depuis 2006, ça continue de baisser de ce côté-là.
Et ça, c'est parce qu'on coupe dans les universités? Où est-ce que vient cet écart-là?
Non, c'est l'écart, ce qui manque, en le fond, hein, c'est pas les universités, parce que, comme je vous dis, on est champion au monde pour les dépenses de recherche dans les universités. Là, ce qui manque, c'est la participation industrielle. Hein? Donc, au Canada, c'est à peu près, dans cette part que je vous ai donnée, 50 % c'est, au Canada, c'est la recherche industrielle. Les autres 50 % c'est en gros l'université, 40, c'est à peu près 40% de tout ça. Et puis, le reste, c'est les gouvernements, les laboratoires fédéraux, les laboratoires provinciaux, ainsi de suite. Les
parapublics. Sur le 2% des dépenses au Canada,
c'est ça.
En recherche, il y en a 1% grosso modo qui est de l'industrie et 1% qui est de l'université
qui
et
du public.
Les centres de recherche gouvernementaux.
Bon, ce qui manque au Canada par rapport au reste du monde, c'est d'une part la participation industrielle, parce que dans le reste du monde, on est plus à 70% la part industrielle. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir du 3%. Mm-hmm. Et aussi, l'État participe beaucoup. Des partenariats État-université, État-industrie, des participations université-industrie. On est très faible au Canada sur des participations université-industrie. Et donc, mais on le voit aussi avec M. Harper, là. Vous savez, le changement climatique, les isotopes, la perte de chercheurs dans les laboratoires fédéraux. C'est une place où on est déjà faible, mais qu'on continue de gruger, là, vous savez,
d'appauvrir, hein?
D'appauvrir en termes de chercheurs. Donc ça, c'est un créneau où on est faible. Au Québec... Donc,
le Canada, juste, n'a pas réussi, depuis 30 ans, 40 ans, à vraiment établir une structure de dialogue, une structure d'échange entre l'industrie et les chercheurs, que ce soit des chercheurs gouvernementaux ou universitaires.
Tout à fait.
Et c'est ça qui expliquerait la différence entre le Canada et les autres pays.
Oui, c'est la grande, grande, grande différence. On est dernier au monde à peu près tout là, pour les pays avancés, sauf, comme je vous dis, pour le financement de l'enseignement supérieur. Donc ça, on est les premiers au monde. Donc, alors, c'est pas vrai de dire que les universités sont mal servies au Canada, là, parce que c'est l'inverse. On est les mieux servis dans le monde. De ce côté-là.
En termes de financement direct. Mais ce qui manque, c'est le financement qui viendrait de l'industrie.
Et il ne faut pas compter, à mon avis, il ne faut pas compter sur l'université pour combler ces besoins-là. L'université, elle a une vocation de la formation. Elle a, certains ont le goût de l'appliquer, mais c'est très peu, des chercheurs. Il faut donc que les politiques scientifiques canadiennes ou québécoises favorise la recherche industrielle, qu'on favorise plus la participation de l'État, notamment dans les ministères. Vous savez, au Québec, par exemple, là, on a discuté beaucoup des pertes d'expertise pointues dans les ministères, mais ça, c'est un exemple. Depuis 20 ans, c'est pas du tout axé sur la connaissance, c'est axé sur... Il y a un fonctionnaire qui part, quel que soit son niveau, quelle que soit sa qualité, on ne le remplace pas. Hein?
Donc ici, vous dites que il y a peut-être 20 ans, on avait dans les ministères des équipes de chercheurs dont le but n'était pas peut-être de répondre à la question d'aujourd'hui, mais qui permettait de maintenir...
Il y avait de la planification long terme. Et au minimum, ces équipes-là avaient des systèmes de planification pour pouvoir juger et puis pouvoir donner des politiques intelligentes aux sous-ministres. Moi, je l'ai vécu beaucoup avec le ministère de l'Énergie, où à partir de 1990, il n'y avait plus moyen de travailler avec eux parce qu'il n'y avait plus de sous pour des gens comme moi. Donc, c'est comme ça que je me suis tourné vers Hydro-Québec ou vers d'autres organismes pour pouvoir avoir des fonds de fonctionnement. Mais au ministère, ça s'est terminé à peu près en 1990. Donc, de dire que... Et donc, c'est ça, là. C'est qu'il y a... Et puis, avec
la campagne...
Et sans
ces personnes-là, il est très difficile pour le gouvernement de vraiment mettre en place des politiques de développement industriel, selon vous?
Oui. Je vais vous donner l'exemple encore de l'énergie, parce que c'est mon domaine, évidemment. Mais il y avait toute une équipe très, très compétente pour donner des subventions en solaire, en éolien. Vous savez, l'éolien, ça partit grâce à cette équipe-là de personnes qui...
Qui étaient au ministère.
Qui étaient au ministère. Ça, c'est maintenant disparu. Il n'y en a plus d'experts en solaire ou dans les ministères. Hein. C'est vraiment axé plus sur l'université maintenant. Et donc, c'est comme ça qu'on a parti le programme éolien au Québec. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches en solaire au Québec. Donc, le Québec est très fort dans le domaine du solaire pour la recherche. Et c'est grâce à toutes ces petites subventions qu'on a obtenues de la part du ministère qu'on a pu partir des équipes. C'est comme ça que moi, j'ai fait mon nom en éolien avec le couplage hydro-éolien, ainsi de suite. Donc, tout ça a été abandonné. Puis si on écoute un petit peu les promesses électorales du jour, vous savez, ce qui tourne beaucoup, c'est de dire on va réduire la taille de l'État. Réduire la taille de l'État, là, première chose qu'on coupe, c'est la connaissance. C'est des gens qui sont du côté planification, côté connaissance, tout ça. Donc, c'est à peu près clair qu'on ne va pas dans le bon sens actuellement. Non?
Restez avec nous, nous vous reviendrons après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Gaétan Lafrance qui nous parle un peu de l'avenir de la recherche et de l'évolution de la recherche au Canada. Gaétan Lafrance, professeur honoraire à l'INRS, énergie, matériaux et télécommunications et auteur de « Quel avenir pour la recherche » publié en 2009 aux éditions Multimonde. Vous nous parlez un petit peu des lacunes du système canadien, malgré en fait des dépenses importantes de la part de l'État dans la recherche universitaire. Ce que vous soulignez, c'est qu'en fait, il nous manque vraiment tout un pan de dépenses de recherche qui serait relié au développement industriel. Selon vous, ce problème-là vient dans la structure même actuelle de nos ministères et de relations entre le gouvernement et l'industrie. C'est bien ça?
Bien, je dirais qu'il faut séparer ceux qui font de la recherche en trois ou quatre niveaux. Donc, il y a la recherche universitaire, il y a la recherche industrielle, mais l'État doit aussi participer à la connaissance. Il doit y avoir des personnes qui sont là pour supporter la connaissance, faire des enquêtes. Il faut qu'il y ait des laboratoires fédéraux. Il faut qu'il y ait des laboratoires provinciaux. L'IREC est un exemple. Il faut qu'il y en ait plus. Ce qui manque, donc, c'est, comme on vient de le dire, dans les ministères, on coupe. Donc, c'est pas ça ne va pas dans le bon sens. Et dans l'industrie, il faut faire participer plus l'industrie. Bon, cela dit, juste un peu avant d'aller vers l'industrie, il faut dire que le Québec se débrouille mieux que le reste du Canada. Donc, on se compare à peu près aux pays de l'OCDE. On est à peu près, la dépense par rapport au PIB, c'est 2,7%. La participation industrielle est à 60% au lieu de 50% dans le reste du Canada.
C'est rare qu'on entend une bonne nouvelle comme ça pour le Québec.
Non, et les dépenses, dans les années 90, donc l'évolution de ce facteur-là, de cet indicateur-là, est resté à peu près stable, mais depuis 2000, donc sous Jean Charest, parce qu'on a beaucoup, on dit beaucoup de mal de Jean Charest, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que finalement, il a quand même fait des bonnes choses. Et du côté R&D, du côté dépenses des universités, du côté environnement, donc c'est aussi, ça c'est de la connaissance, les indicateurs ont été plus favorables dans les années 2000 que dans la décennie 90. Et un des plans de Jean Charest, qu'avait Jean Charest, c'est d'atteindre 3% du PIB. Il y avait une stratégie spécifique là-dessus, sauf qu'avec 2008, ça le ralentit un petit peu, mais il y a quand même un plan derrière tout ça.
Et qu'est-ce qui s'est fait? On a créé plus d'entreprises tournées vers la connaissance? Comment?
Je vais vous donner un exemple sans prendre parti pour un parti ou pour l'autre, mais le Centre multimédia à Montréal, par exemple. Ça a été d'abord été une création de M. Landry, quand il était premier ministre. À l'époque.
Au début des années 2000.
Donc, il a subventionné fortement cette initiative-là. Et les libéraux ont continué de le subventionner. Donc, ça, c'est un bon exemple pour favoriser de la connaissance de haut niveau, de l'innovation, où l'État doit s'impliquer. C'est pas un exemple où les universitaires sont là. Donc, les universitaires ont leur tâche, mais il faut aussi favoriser des activités de haut niveau comme ça. Donc ça, c'est un exemple. Je peux vous donner aussi un autre exemple, c'est Uranos. Je ne sais pas si on va parler des nouveaux modèles à la fin.
Oui, un peu, mais allez-y avec Uranos, qui est aussi une création qui a quoi, une quinzaine d'années?
Ça, en fait, c'est 2000, en fait, que ça a parti. Donc Uranos, c'est un groupe très original, créé au début des années 2000, pour stimuler la recherche multidisciplinaire. Donc, quand on parle de recherche multidisciplinaire dans les universités...
Et sur quel thème? Parce qu'Ouranos, on a un peu
l'idée. C'est le changement climatique. Donc, c'est la sécurité publique, en fait, le ministère de la Sécurité publique qui a parti ce groupe-là. Donc, l'intérêt de ce groupe-là, c'est que c'est multidisciplinaire dans le sens où il y a des... Bon, il y a une structure de base, de gestion de base. Il y a des permanents, des chercheurs permanents à l'intérieur. On fait participer beaucoup des universitaires parce qu'il y a des fonds combinés d'Ouranos et du CRSNG et de fonds climatiques. Donc, où il y a de la formation. Donc, l'exemple le plus connu, c'est l'exemple de M. Laprise à l'UQAM.
Mais Ouranos, c'est un groupe indépendant
oui.
qui est financé directement, donc qui n'est pas intégré dans une université ou une autre.
Tout à fait. C'est un centre... moi, j'appelle ça un nouveau modèle de recherche qu'il faut promouvoir dans le sens où ils sont indépendants. Hein? Ils sont pas liés par... comme l'IREC est lié à Hydro-Québec. Bon, Ouranos n'est pas lié à Hydro-Québec. Ils ont des fonds d'Hydro-Québec pour des chercheurs. Mais c'est Ouranos qui fait sa programmation. Avec des gens qui viennent d'un peu partout.
Et on parle d'un groupe de quelle taille?
Je pense qu'au total, ça fait à peu près 250 chercheurs, si on inclut des chercheurs gros. Universitaires. C'est gros. Donc ça, c'est, à mon avis, et c'est des problèmes de très long terme et de très haut niveau. Là. C'est de la science de haut niveau. Lorsqu'on fait de la prévision météo pour les 100 prochaines années, c'est du haut niveau. Là. C'est des équations différentielles très complexes. On intègre aussi toutes sortes d'activités d'adaptation au changement climatique. Donc, on inclut autant des sciences sociales que des sciences mathématiques.
Que des économistes. C'est ça. Ouranos, il y a des...
Moi, je pense que c'est un beau modèle qui devrait être relancé un petit peu partout. Mais ça montre que le Québec est innovateur à plusieurs points de vue.
Parce que ce centre-là a été développé ici sans être importé d'un autre...
C'est pas importé. Donc, on l'a exporté en partie dans plusieurs autres endroits. Notamment, il y a une collaboration avec Colombie-Britannique actuellement. Donc, non, c'est une belle plateforme de recherche. Parce que ce qui manque, c'est d'avoir des équipes multidisciplinaires, un peu comme moi j'ai connu au Tokamak, où on inclut pas seulement des universitaires et des étudiants, pas seulement des profs et des étudiants, mais aussi des techniciens, des gens qui viennent de divers milieux. Donc ça, c'est un bon exemple où le Québec, à mon avis, est assez innovateur par rapport au reste du Canada.
Est-ce qu'ici, on voit des retombées vers l'industrie ou est-ce que ça reste vraiment un genre de centre de recherche qui est plus ou moins... pas une extension d'université, mais qui se développe dans le même contexte.
Bon, je vais vous donner un exemple précis. C'est le cas d'Hydro-Québec. Vous savez, moi, je suis aussi un expert en prévision de demande. Et comme retraité, je continue à travailler avec eux. Donc, j'ai fait plusieurs travaux avec eux. Donc, notamment, l'impact du changement climatique sur la demande d'énergie ou la demande d'électricité. Je fais des études avec Ouranos, mais je continue avec Hydro-Québec à travailler sur ce terrain-là. Donc ça, c'est une retombée directe. Il y en a plusieurs autres, là, mais je vous en donne une. Là, où chez Hydro-Québec, depuis 2006, donc on considère qu'il y a changement climatique déjà. Et donc, dans nos modèles de prévision de demande, qui sont long terme au Québec, il faut intégrer donc le paramètre climatique. Donc, il y a des collaborations très étroites avec Ouranos, où Ouranos nous donne des prévisions de degrés jour, par exemple,
et on intègre ça dans nos modèles. Et ça vous permet, après ça, ça permet à Hydro-Québec de dire combien je vais avoir besoin d'énergie en 2020, 2030, qu'est-ce que je devrais
construire. On réduit l'incertitude au niveau de la prévision, parce qu'évidemment, c'est des sous derrière tout ça. Il y en a plusieurs autres exemples. Par exemple, les apports d'eau dans le nord, là, il faut quand même connaître la pluviosité due au changement de climatique. Donc ça, c'est des bons exemples aussi. Il y a toute la question l'érosion des berges. Donc c'est des municipalités directes. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'impact.
Et l'avantage, si on veut, peut-être comme Ouranos, c'est un peu, on pourrait dire, c'est un peu le modèle du tokamak. Transporté à 2010, on a des grandes équipes. Est-ce que c'est une façon peut-être plus flexible que ce que peut offrir l'université de répondre aux besoins de la société?
Oui, moi je pense que je ne confierais pas à l'université des grands projets comme ça. Bien que bizarrement, à cause du fonctionnement, là, il faut connaître l'université, comment on fonctionne pour aller chercher des demandes de subventions. Il faut que ça soit confié à un tiers, la gestion de la recherche, pour des grands projets comme ça. Et c'est comme ça qu'on attire des universitaires qui, eux, dans leur domaine à eux, dans leur discipline, parce qu'on fonctionne par discipline, peuvent amener des apports intéressants. Mais pour la programmation scientifique, de laisser ça entièrement aux universitaires, non. Je pense que ce n'est pas la façon de procéder pour ces grands projets mobilisateurs, quoi. Il faut vraiment faut que ce soit un organisme indépendant qui peut s'associer des universitaires, qui peut s'associer des industriels pour déterminer une programmation scientifique de long terme.
Guitant Lafrance, pour terminer, où s'en va la recherche? Où est-ce que va l'université au Québec? L'université a connu de grands bouleversements en 2012, de la part des étudiants à tout le moins, sans vraiment voir, si on veut, sa base remise en question. Donc, où est-ce qu'on s'en va?
Bon, d'abord, c'est que dans mon livre, déjà, ça a été écrit il y a 3 ans déjà, hein, donc tout ce qu'on a discuté cette année, et bravo aux étudiants de l'avoir souligné, à peu près tout ce qui a été dit en termes de critique envers les universités, je l'avais déjà annoncé dans mon livre. Là.
Oui, en lisant votre livre, on sent pas
donc,
du tout dépassé par les événements.
C'est d'actualité. J'ai toujours, à cause de l'évolution universitaire, j'ai critiqué donc en cours du Big Bang, on a parlé tout à l'heure un peu, là, cette évolution sans contrôle, où il n'y a pas de remise en question jamais de ce qui est là. Donc, une fois qu'une faculté est créée, elle ne sera jamais fermée. Elle va rester là. Le fameux forum qu'on veut créer pour voir un petit peu, est-ce que c'est encore utile d'avoir, en gros, un campus universitaire pour 2 cégeps? C'est gros, hein? C'est beaucoup, hein? C'est juste si on parle de béton, là, ça veut dire qu'il y a, pour 2 cégeps, il y a un campus quelque part, pour eux autres. Donc, c'est beaucoup. Donc, est-ce qu'on a besoin de toutes ces facultés-là, de tous ces satellites-là? Bon, première question. Est-ce que l'argent, où va l'argent? Donc, les professeurs ont souvent critiqué donc l'évolution aussi. C'est que l'argent est de plus en plus axé sur l'administration, la gestion des bâtiments, alors que les profs sont obligés de payer de l'épicerie pour leur recherche, là, donc...
Dans votre livre, vous mentionnez aussi qu'un des problèmes, peut-être, des transferts ou des nouvelles tendances universitaires, c'est qu'on semble négliger l'enseignement des étudiants pour favoriser vraiment la recherche.
Tout à fait. D'abord, les universités cherchent des sous avec comme la guerre de triage ou peu importe, là. Donc, ça, c'est axé beaucoup sur la recherche. Mais les profs eux-mêmes, ils sont désormais évalués sur leur performance en recherche et non pas sur l'enseignement. Donc, plus un chercheur est performant, moins il enseigne. Hein, c'est connu dans toutes les universités. Le problème, c'est que ceux qui aiment l'enseignement, ils sont mal évalués. De moins en moins, c'est un critère important dans l'évaluation. Donc, si on veut devenir permanent ou si on veut devenir professeur titulaire, il faut oublier ça si on n'est pas un chercheur performant ou si on ne fait pas de la recherche. C'est une chose qui est différente donc des années 70 où souvent des chercheurs étaient collaborateurs dans des équipes, mais ce n'étaient pas des leaders en termes de publication, en termes de subventions de recherche. Alors, désormais, ce n'est plus par équipe, c'est chaque chercheur doit avoir sa PME de recherche et c'est sa seule survie s'il veut avoir une promotion dans l'université.
Mais est-ce que des modèles comme Uranus vont changer la donne ou est-ce que vous pensez que ça
Parce qu'Uranus, quand on a parlé de la recherche universitaire et de la recherche ailleurs, autre qu'universitaire, Uranus est un beau modèle pour la recherche autre qu'universitaire. Mais les universités, le problème, c'est que c'est un peu comme une société distincte, isolée sur une lune. Là. Ça fonctionne selon ses critères. Donc, les critères, c'est quoi? C'est de publier, c'est d'avoir des subventions, c'est d'avoir des étudiants gradués. Alors que dans les années 70, on pouvait être un enseignant, être un collaborateur au niveau d'une équipe et on avait quand même la paix, on était quand même considéré si on était un bon enseignant. Alors que maintenant, oubliez ça, là, si on est juste un enseignant et un collaborateur, vous avez peu de chances d'avoir une promotion dans les universités.
Donc, pour vous, qu'est-ce que va être l'université de demain et est-ce qu'elle va répondre aux besoins de la société?
Mais moi, je pense qu'on a besoin d'abord d'une validation du schéma actuel des différentes facultés, ainsi de suite. Donc, de là, la critique des étudiants.
C'est-à-dire de se poser la question, est-ce que la structure actuelle
est adéquate?
Est adéquate.
Par exemple, la formation. Moi, j'ai toujours pris l'énergie comme un des exemples. C'est-à-dire que c'est un thème qui a disparu de la programmation de l'INRS, mais aussi de bien d'autres universités. Alors que c'est un thème d'avenir absolument important et un thème essentiel pour l'humanité. Il y a des nouveaux créneaux. La société évolue rapidement, donc est-ce qu'on doit encore avoir une université qui est axée essentiellement sur les disciplines ou si on devrait avoir aussi de la formation qui est plus diversifiée? Donc, il faut se poser ces questions-là. Est-ce que tous les centres satellites sont utiles? Est-ce que, bon... Et moi, je pense qu'il faut d'abord faire un constat là-dessus. Il faut que ça soit pas simplement regardé comme le fait le ministère de l'Éducation, université par université, mais il faut qu'il regarde l'ensemble. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Donc, c'est la première chose à faire. Moi, je ne crois pas que l'université soit mal gérée. C'est simplement qu'on a laissé faire les choix at large, sans vérification de leur pertinence, de leur intérêt. Donc, c'est la première chose à faire, c'est d'avoir un suivi des orientations. Et possiblement un virage vers autre chose, mais il faut d'abord faire ça.
Guétan Lafranche, sur cette fin, en espérant qu'on saura quand même renouveler l'université et l'amener dans un monde où les choses changent rapidement, à être capable de garder à la fois sa continuité et sa pertinence pour notre société. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre livre, votre excellent livre, Quel avenir pour la recherche, qui, à mon avis, doit être lu par tous ceux qui s'intéressent, pas seulement à l'université, mais à la recherche en général, dans le monde québécois et un peu dans le reste du monde. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Guétan Lafranche, professeur honoraire à l'INRS, Énergie, matériaux et télécommunications. Vous êtes aussi auteur d'autres livres, dont Vivre après le pétrole, Mission impossible aux éditions Multimonde. Et on me dit que vous préparez un nouveau livre qui devrait sortir là, en 2013.
Courant, c'est ça.
Merci.
Merci beaucoup, là.
Encore une fois, la revue Québec Science nous présente, en ce début d'année 2013, les 10 découvertes qui ont marqué l'année 2012. On a ici un beau bouquet de travaux qui sont faits au Québec, et comme le souligne la revue, la difficulté n'a pas été tant de choisir ces 10 découvertes-là que de laisser de côté des dizaines d'autres qui avaient été soumises au comité d'évaluation. Parmi les 10, je dois aussi faire un choix, alors je vais retenir simplement 3 de ces 10 découvertes-là. Je vous invite évidemment à vous procurer le numéro janvier-février 2013 de la revue Québec Science pour voir l'ensemble des découvertes et avoir un certain portrait très positif de ce qui peut se faire au Québec en recherche. La première découverte, celle qui retient également l'attention primordial de Québec Science, c'est une découverte en anthropologie. On pourrait croire qu'il ne nous reste plus rien à découvrir sur nos ancêtres, l'Homo sapiens, c'est l'homme du Néandertal, mais ce n'est pas le cas. Et ce qu'a fait Ariane Burke de l'Université de Montréal, c'est justement de nous montrer un peu les différences sociales et les différences de capacité entre l'Homo sapiens et l'Homo Néandertalis pour expliquer un peu comment ces deux peuples qui ont ces deux espèces qui ont survécu côte à côte pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, comment elles se sont développées par la suite et expliquer peut-être pourquoi l'homme du Néandertal a disparu alors que l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous, est toujours ici. Une des raisons pour laquelle on explique ça, c'est peut-être la capacité de l'Homo sapiens à fabriquer des outils, mais aussi des bijoux, et grâce à ces objets-là, établir des relations avec des tribus différentes, par des cadeaux par exemple, qui permettent de faire des liens plus importants et donc de sécuriser, si on veut, la tribu et de par la présence d'alliés. C'est un peu ce que nous suggère Ariane Burke, qui nous dit que les Néandertaliens n'ont pas du tout cette capacité-là qu'on a retrouvée chez l'Homo sapiens. Encore plus, il semble que l'Homo sapiens ait développé en même temps une capacité, peut-être grâce à ses réseaux plus étendus, ses réseaux sociaux plus étendus, à développer une capacité spatiale, géométrique, géographique, plus grande, ce qui lui permettait de se déplacer plus facilement sur des plus longues distances et donc de maintenir des contacts avec plus de ses congénères et peut-être de faciliter comme ça la lutte contre des changements d'éléments, la lutte contre des ennemis communs, etc. Ces découvertes sont fascinantes parce qu'elles montrent que on peut regarder et se poser de nouvelles questions par rapport à nos ancêtres, des questions qu'on n'avait pas regardées dans le passé, ce qui nous ouvre de nouvelles façons de comprendre à la fois le développement de nos capacités actuelles, mais aussi le positionnement qui a fait qu'à la fin, l'Homo sapiens a survécu, alors que plusieurs espèces concurrentes ont fini par disparaître. Voilà certainement une histoire à suivre. Parmi les autres découvertes intéressantes, je ne peux pas ne pas mentionner les découvertes de mon collègue Gilles Fontaine et Pierre Brassard, tous deux du département de physique de l'Université de Montréal, qui nous présentent en fait des planètes impossibles. On a développé des technologies remarquables au cours des dernières années pour identifier et observer des planètes extrasolaires, donc tournant autour d'étoiles qui sont à des distances assez importantes. Or, ce que Gilles Fontaine et Pierre Brassard ont fait, c'est d'identifier des planètes extrêmement petites et qui tournent à des distances remarquablement proches d'étoiles anciennes géantes rouges qui sont un peu partout à travers l'univers. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que ces deux astrophysiciens ont identifié deux planètes qui tournent à des distances un centième de fois plus proches du Soleil que la Terre. On se rappelle que Mercure est à peu près à 40% de la distance de la Terre, donc des étoiles extrêmement près qui ont survécu à le développement de la géante rouge, un passage que le Soleil devra connaître aussi dans à peu près 5 milliards d'années. Des planètes qui ont survécu à cette immense chaleur, à cette explosion lente, si on veut, de la planète, pour rester à des distances extrêmement près, alors que toutes les théories prédisaient que de telles planètes auraient dû être absorbées par l'étoile et détruites. Ça pose certainement de nouvelles questions sur nos modèles de développement planétaire à une époque où cette discipline est en pleine expansion et en pleine explosion. Donc encore beaucoup de nouvelles découvertes à faire dans ce domaine. Et on le voit, beaucoup de travail à faire pour vraiment comprendre les fondements du développement de cette nouvelle science. Une dernière découverte qui est extrêmement fascinante également, c'est celle associée aux mathématiques des fluides. On se rappelle que 2013 s'est nommé l'année internationale des mathématiques de la planète et une équipe dirigée par le professeur de génie mécanique de l'Université McGill, Georges Allaire, a développé de nouvelles techniques de simulation de dynamique des fluides qui est beaucoup mieux à même de gérer la turbulence. La turbulence, c'est des mélanges quasiment, littéralement chaotiques, des mélanges, des comportements qu'on croit souvent dus au hasard, de fluides qui vont se comporter de manière extrêmement étrange, bien qu'on comprenne en fait ces phénomènes-là, et faciliter par exemple le mélange des différentes
des différentes composantes. Donc, pendant longtemps, on a pensé que cette turbulence-là était impossible à prévoir. Or, voilà que Georges Allaire et ses collègues ont montré que si on analyse les données de pression, température, salinité des eaux, on s'aperçoit qu'il y a certaines corrélations qui ressortent qui permettent en fait de mieux simuler, à tout le moins de manière en moyenne, les comportements de turbulence et d'identifier les zones de turbulence dans un environnement complexe tel que, qu'un océan ou tel que le golfe du Mexique. Donc, grâce à ces travaux-là, ils ont été capables de reprendre et de resimuler correctement le développement de la plume de pétrole et l'expansion de cette fuite de pétrole qu'on a connue en avril 2010 autour de la plateforme Deepwater Horizon. Ces calculs-là sont très importants parce qu'ils nous permettent de mieux reproduire l'écoulement comme ça dans le cadre de catastrophes et à l'avenir, on pourra certainement utiliser ces nouvelles techniques pour prédire le chemin des écoulements de soit de contaminants comme le pétrole, soit de produits qu'on veut déverser pour suivre certains comportements et ainsi réagir de manière beaucoup plus efficace aux prochaines catastrophes maritimes en diminuant l'impact environnemental, en diminuant les coûts et en répondant de manière beaucoup plus rapide. Voilà donc trois découvertes seulement parmi les 10 qui sont présentés dans Québec Science numéro janvier-février 2013. Alors, pour en savoir plus, je vous invite à vous procurer cette excellente revue. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création du thème musical, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.